paix, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons avoir le plaisir d'écouter ce soir le professeur Georges Serapis, qui va nous parler de Marseille et du renouveau des maladies neuromusculaires. Et je vais lui passer la parole de suite.
Très bien, merci monsieur le directeur. Alors, je dois vous donner trois indications. D'abord, ce titre un peu rébarbatif qui s'appelle les maladies neuromusculaires, elle concerne effectivement le système nerveux. Et vous savez que dans le système nerveux, il y a des zones qu'on appelle centrales, dont nous parlerons d'ailleurs, je crois, la semaine prochaine avec le professeur Montiès, c'est-à-dire en particulier les grandes maladies du cerveau, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, etc., etc. Et puis, entre le cerveau et le reste du système nerveux, il y a d'abord la moelle épinière, dont tout le monde connaît la situation dans la colonne vertébrale, et puis les qu'on appelle les nerfs des membres et de la face, c'est-à-dire les nerfs périphériques, qui sont à la périphérie du cerveau, et enfin les muscles, dont vous verrez qu'ils sont d'une extraordinaire complexité, je passerai sur beaucoup de points, mais ça fait partie justement du renouveau extraordinaire qui s'est produit depuis à peu près les années 70 et qui ne vont qu'en croissant et qui sont un des points les plus importants du progrès de la médecine parmi bien entendu d'autres aussi, concernant les autres exemples. Et alors, le dernier point que je voulais indiquer, c'est que effectivement Marseille, qui au départ paraissait plutôt défavorisée dans ce domaine, a pris heureusement une expansion importante et va continuer d'ailleurs à avoir une action considérable dans le monde justement de ces maladies dont on connaissait quand nous avons commencé trois ou quatre grandes maladies qui avaient été parfaitement décrites au XIXe siècle par des grands spécialistes, en particulier français, allemands et parisiens, et dont on connaît maintenant, vous allez le voir, plus de 200 maladies qui sont connues, qui sont traitables pour un certain d'entre elles, et bien entendu, je ne vous parlerai pas de ces 200 maladies, mais je vous donnerai quelques exemples. Alors, tout a commencé, et les débuts, comme vous le voyez, ont été difficiles. À l'ancienne Timone, où on voyait l'asile d'aliénés avec des malades qui criaient, et puis des locaux vraiment vétustes. Et c'est là que était partie l'idée, peut-être, de consacrer beaucoup de travail à ces maladies qui étaient très mal connues, et dont, je vous rappelle, il n'existait que trois ou quatre grandes maladies, et deux grands maîtres de la faculté de médecine de l'époque, qui étaient d'ailleurs des personnes tout à fait opposées dans le genre, c'est-à-dire le professeur Maurice Recordier d'une part, qui était un grand clinicien provençal, très plein d'esprit et plein d'intelligence, et puis le professeur Henri Gastaud, que vous avez peut-être connu, qui a été doyen le président de l'université, qui était un doyen coruscant, et un homme tout à fait remarquable dans son intelligence. Et c'est tous les deux qui m'avaient soutenu quand j'avais l'idée justement de me lancer dans cette affaire. Alors, ils m'avaient soutenu, mais ailleurs en France, c'était très difficile de trouver des personnes qui puissent nous instruire. Alors, évidemment, il y avait à Paris un médecin qui s'appelait le docteur De Mos, qui était plein de bonne volonté, qui connaissait peu de choses sur ces maladies, avec Dreyfus et Shapira, qui étaient des biochimistes. Ils savaient qu'il y avait une enzyme, peut-être un drôle de nom, qui était élevée dans certaines de ces maladies musculaires, mais ils n'en savaient pas plus. Et il était venu à Marseille, à l'école des handicapés moteurs de Saint-Liens, et il nous avait gardé toute l'après-midi en examinant très soigneusement les rétractions de ces pauvres malades. Mais enfin, c'était vraiment pas d'un grand intérêt, et en définitive, il ne parlait que ça. Et justement, en le signalant à Sargasto, professeur Bordier, on s'était bien rendu compte qu'il ne fallait pas attendre des choses extraordinaires des médecins parisiens, et que nous n'apprendrions pas peut-être grand-chose. Alors, à ce moment-là, je pense toujours à Sargasto, j'avais eu un service qui était dans l'ancien hôpital, qui a maintenant été détruit. On connaissait l'ancien hôpital Michel Lévy, et j'avais au deuxième étage, je crois, un service où on pouvait commencer à travailler. On avait essayé d'installer un laboratoire dans une cuisine, un laboratoire modeste qui était tenu par une pharmacienne de bonne volonté. Et en réfléchissant, on avait dit, mais non, c'est pas à Paris qu'on va savoir des choses, mais c'est à Newcastle, parce qu'à Newcastle, dans le nord de l'Angleterre, il y avait, si je peux m'exprimer ainsi, la Mecque de ces maladies des nerfs et des muscles, et cette Mecque était dirigée par ce personnage qui était le docteur Walton, et vous voyez que progressivement, le docteur Walton était devenu professeur Walton, puis anobli par la reine, il est devenu Sir Walton, et enfin actuellement il est Lord Walton, et c'est un homme d'une grande autorité. Et c'est là que nous avions pensé que la meilleure solution, c'était d'essayer d'aller à Newcastle-upon-Tyne, qui était un endroit difficile à atteindre, avec en particulier le premier collaborateur à l'époque, qui ont été le professeur Hubert Roux, qui actuellement s'est dirigé vers la maladie de l'appareil de locomoteur, la pneumatologie, le professeur Acoron, qui est toujours un biochimiste de qualité, et puis le docteur Jacques Barret, qui lui était à la fois un garçon qui nous avait beaucoup aidé d'une part en faisant ce qu'on appelle des prélèvements musculaires, des biopsies musculaires, et puis il était très très fort pour les publics relations, et il nous a aidé dans la progression de certains crédits que nous allons voir. Et puis il y avait également le docteur Georges Crémeux, qui est un éminent neurologue marseillais, et qui était parti dans une histoire que je vous raconte à l'instant. Mais surtout, grâce à une association de la myopathie, c'est-à-dire une maladie musculaire, on avait pu bénéficier de cette somme énorme qui allait nous permettre d'acheter un microscope électronique, parce qu'il y en avait peu à l'époque, et puis que nos collègues de la faculté, qu'on appelle fondamentalistes, c'est-à-dire les chercheurs sur, disons, en microscopie, n'avaient même pas trop collaboré avec nous. Ils disaient, mais non, nous, notre travail, c'est ça, et toi, ton travail, c'est autre chose, ça ne te regarde pas la microscopie électronique. Alors, je n'avais pas hésité, et j'avais immédiatement acheté un microscope électronique, et vous reconnaissez ici, d'ailleurs, le docteur Barret, et puis d'autres personnages, et puis M. Guglielmi, qui était le directeur de l'école des handicapés moteurs, et on, grâce en particulier aussi à un donateur qui était M. Vincent Crispiolo, qui était un propriétaire d'une pizzerie dont un fils était atteint d'une maladie musculaire très grave, on est arrivé à avoir ce microscope électronique. Et un microscope électronique, c'est un très bel appareil, mais il faut quelqu'un pour le faire marcher. Alors la personne qui a pu le faire marcher, eh bien, c'est Georges Crémieux, qui très courageusement est parti à Newcastle pour faire fonctionner un microscope électronique. Et alors cela a ému considérablement nos collègues fondamentalistes qui m'ont dit, mais non, mais la microscopie électronique c'est nous, mais à ce moment-là, puisque tu réagis comme ça, ben on va t'aider. Et à ce moment-là, ils ont effectivement collaboré de façon plus étroite avec nous. Alors petit à petit, les choses ont évolué, et puis en 1968, ça a été une année charnière pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en particulier avec Hubert Roux, il nous avait paru utile, pour les étudiants en particulier, d'écrire ce que nous commencions à savoir, et on avait fait un petit ouvrage qui maintenant est bien obsolète, mais enfin, qui faisait le point justement sur beaucoup de ces maladies. Et nous avions pensé qu'au fond, il fallait faire une réunion pour essayer de voir qui en France pouvait être intéressé ou à l'étranger. Et c'est avec un nez formidable qu'on avait trouvé comme date le mois de mai 1968. Et évidemment, c'était catastrophique parce que les parisien qui était invité téléphonait toutes les heures en disant ben, il n'y a plus d'avion, on va prendre le train, il n'y a plus de train, on va prendre la voiture, il n'y a plus de voiture parce qu'il n'y a plus d'essence. Et il y avait de moins en moins de monde à cette première réunion qui, quand même, a eu lieu. Et elle a eu lieu en particulier parce que certaines personnes que je ne vois pas très bien ici, si c'est très entendu, mais peut-être pour un temps, avaient pu être là dans des circonstances difficiles et avaient pu donner une impulsion importante à cette réunion. Alors, par exemple, Walton était passé par l'Espagne et on était à il avait loué une voiture, il était, enfin, c'est comme les gens qui actuellement arrivent d'Asie ou des États-Unis, enfin c'était vraiment difficile d'arriver à Marseille. Et puis le professeur Bourtal, qui était de Copenhague aussi, qui était un grand spécialiste de choréographie, etc., avait pu quand même parvenir à Marseille, et grâce à eux et grâce à d'autres collaborateurs, on avait pu. Si vous voulez, réunir tous ces travaux, même avec ceux qui n'avaient pas pu venir, dans un premier ouvrage qui évidemment est bien démodé actuellement et qui concernait une partie importante de ces maladies qui sont ce qu'on appelle les atteintes des muscles de ceinture, c'est-à-dire la ceinture des épaules, la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne. Ce sont des muscles très très importants qui permettent de se relever et de soulever les bras. Alors, comme dans le milieu scientifique, tout se dit, eh bien, un beau jour, j'avais eu la surprise d'être français invité dans une région très particulière, c'est-à-dire dans le centre des États-Unis, en plein Arizona, par le docteur Milorad, qui était un grand spécialiste à l'époque des États-Unis de ces maladies neuromusculaires, et j'avais participé effectivement à une grande réunion qui s'appelait des concepts d'exploration dans les maladies musculaires. Et j'avais eu surtout la surprise dans ce lieu magnifique, dans la montagne, etc., d'être accueilli également par Jerry Lewis, qui n'avait rien du tout du comique qu'on voit quelquefois à la télévision, mais qui était un bel homme, plein d'intelligence, qui sponsoriser cette réunion parce que justement il avait un fils qui était malade et qui avait une maladie très grave des muscles, moyennant quoi il avait créé, en particulier bien avant le Téléthon dont on parle beaucoup en France, il avait créé le Téléthon aux États-Unis qui avait été le point de départ d'ailleurs du Téléthon français, et il avait signé un programme, et ça a été pour nous donc un moment très historique parce que nous avons compris effectivement que c'était à l'étranger qu'on trouvait des gens qui s'y connaissaient, et que c'est en fréquentant des gens des États-Unis ou d'autres qu'on pouvait faire avancer les choses à Marseille. Alors, effectivement, j'ai utilisé le mot renouveau, mais j'aurais pu utiliser le mot révolution parce qu'à partir des années 70, ça a été vraiment une révolution dans la conception de ces muscles, en particulier dans le monde, avec quelques chercheurs des États-Unis, Seringel et Brooke, qui étaient venus à Marseille, et puis étaient partis rapidement, parce qu'il a voulu aller au bord de la mer, il avait attrapé un énorme coup de soleil, enfin peu importe. Et ces deux personnes avaient créer, on peut dire, et imaginer ce qu'on appelle l'immunohistochimie, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à colorer de façon très très précise les fibres musculaires et à arriver à un diagnostic dont on ne soupçonnait pas l'existence quelques années avant. Il y avait également Salvatore Di Moro, qui est un Italien qui est aux États-Unis, et qui s'était lancé, alors lui, dans l'étude de petits organismes qu'on appelle les mitochondries, j'en ai peut-être un mot tout à l'heure. Alors, ce qu'on faisait dans le monde, eh bien, on s'est dit qu'au fond, à Marseille, on pouvait commencer à le faire. Et alors, grâce à des collaborateurs, les premiers, comme mais aussi par de nouveaux collaborateurs, en particulier Jean Pouget, qui maintenant est mon successeur, Jean-Philippe Azulé, et puis le professeur Pélissier, qui est un maître de la microscopie, si vous voulez, et Claude Desnouel en biochimie, eh bien, une équipe très très sérieuse arrivait à commencer, si je peux dire, ce qui se faisait à l'étranger, dans les grands centres étrangers. Et alors, nous avons été considérablement aidés par les personnels, disons, de tout niveau de ce service hospitalier, qui était le premier service spécialisé de France dans les maladies neuromusculaires, où nous retrouvons d'une part des infirmières et des secrétaires de haute qualité qui n'hésitaient pas à dépenser leur temps, comme ici aussi, et leur énergie pour faire marcher les choses, et puis d'autres collaborateurs ici, Pouget, Scano, Desnouel, je crois, Olivier Blain, puis bien d'autres, et puis il y avait également il commençait à y avoir des chercheurs d'étrangers, notamment ce sud-américain, et puis une autre personne qui intéressait, je ne sais pas si c'était, mais je ne suis pas sûr, qui intéressait énormément les étudiants parce que c'était une fille très capable, qui était également, je crois, de Rio de Janeiro, mais qui avait été Miss Monde. Et ça intéressait beaucoup plus les étudiants et les externes que ces maladies neuromusculaires qu'on commençait à déchiffrer sérieusement. Alors, à ce moment-là, on s'est senti un peu plus fort et on a dit, ben ça, les journées de 68, c'était catastrophique, mais enfin, il faut en faire d'autres. Et alors, ça a été l'occasion, en 68, je crois, d'organiser alors les deuxièmes journées internationales, et vous voyez que dans le grand amphithéâtre de la faculté de médecine, eh bien, on voit beaucoup de gens qui sont en fait des étrangers, des grands experts, de grande qualité, avec l'aide, là encore, de l'association marseillaise, surtout de contre la myopathie, qui avait été créée par M. Vincent Criscuolo, donc ce patron de pizzerie que le Dr Barry connaissait bien, et il nous avait apporté un soutien financier non négligeable et nous avait permis de réaliser des journées très très importantes, et en particulier là encore de publier avec Hubert Roux toutes les communications qui avaient été faites, qui étaient de très haut niveau et qui étaient très modernes, et qui effectivement ont marqué une date à Marseille dans la connaissance de ces maladies, et la presse alors avait tenu compte et disait Marseille, le point de la recherche, etc. Et effectivement, Marseille avait pu se lancer dans l'aventure, c'était vraiment une aventure internationale et participer à donc ce que j'appelais le renouveau des maladies neuromusculaires. Alors, je vais vous en donner quelques exemples qui je l'espère, ne sont pas trop difficiles à saisir. Qui nous ennuieront pas trop. Alors, signalons que les choses se sont passées en deux périodes, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler pré-moléculaire, avant l'étude des petites molécules, si vous voulez, au 19e ou 20e siècle, et puis la deuxième étape a été la médecine moderne, à partir aussi des années, jusqu'aux années 90 et jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on faisait au 19e et au 20e siècle? Eh bien, on étudiait la clinique de ces maladies, l'examen clinique. On arrivait à faire quelques prélèvements biopsiques et l'analyser, à faire un début d'études électriques des muscles et diverses explorations fonctionnelles qui avaient amené un certain progrès avec le scanner des muscles. Mais tout cela, c'était prémoléculaire, et c'est après, dans les années suivantes, que on est arrivé à connaître ces maladies au point de vue strictement moléculaire, c'est-à-dire les gènes qui sont déficients, l'effet de la mutation, comme on dit, des gènes, c'est-à-dire de l'anomalie des gènes sur les produits, si vous voulez, qui constituent les muscles, et les conséquences de tout ça, et des essais thérapeutiques qui sont toujours en cours actuellement. Alors je vais vous donner essentiellement trois exemples de ces maladies qui ont été en somme dans une période de renaissance dans ces années-là, c'est-à-dire une maladie très très grave de l'enfant qu'on appelle la maladie de Duchenne et qui est devenue langue bizarre, les dysromyopathies, vous allez voir pourquoi. Ensuite, des myopathies, des ceintures dont je vous parlais, qui avaient été, disons, qu'on appelait maladie de Walton, si vous voulez, aux diverses protéines, les agencements des protéines, et puis peut-être, je dirais un jour, les mitochondries, pour quand même être toujours près de la réalité en disant qu'il y a une myopathie qui est en panne. C'est celle-ci, en particulier du point de vue génétique, et malheureusement une maladie encore fatale, qui est la maladie de Charcot, qui est là une des plus graves maladies du système nerveux, qui évolue vers catastrophiquement, en général, la cause. Alors, donc au XVIIIe siècle, le docteur Duchesne de Boulogne, en France, avait observé des garçons, parce que c'était une maladie des garçons, qui avaient de la difficulté à monter un escalier ou à la course, et il avait observé surtout que ces garçons avaient des gros mollets, et ces gros mollets étaient tout à fait caractéristiques de la maladie, puisque c'était du tissu, si vous voulez, dur, fibreux, qui remplaçait les muscles, et puis petit à petit, les enfants avaient de la difficulté à se relever, ils étaient obligés de prendre appui sur les genoux pour se relever, et puis vers l'âge de 20 ans, vous voyez ce tableau catastrophique avec ses corsets en fauteuil roulant, etc., etc. Et c'est vers la 20e année que les malades mouraient du cœur ou de la respiration. Alors, parallèlement, quelques années après, Becker en Allemagne avait observé que certains patients, toujours des garçons, qui étaient parvenus à l'âge adulte et qui avaient dépassé 20 ans, avaient des symptômes qui étaient à peu près égaux. Vous voyez, c'est décollement des omoplates, cette atrophie des bras, etc. Et toujours ces gros mollets. Et c'est ce qu'on avait appelé la maladie de Becker, qui était donc une forme un peu moins sévère de ces maladies. Et alors, on arrivait effectivement à faire des prélèvements des muscles. Qu'est-ce qu'on voyait? On voyait des amas de graisse. On voyait du tissu fibreux qui enserrait les fibres musculaires, l'électromyogramme montrait des petites anomalies, et les biopsies montraient également, si vous voulez, surtout au début de la maladie, des grandes inégalités des fibres musculaires. Vous voyez des petites fibres, puis vous voyez des grosses fibres, et des grosses fibres hypertrophiques, mais on n'allait pas plus loin. Alors en fait, c'est en 1987, surtout à Boston, que deux chercheurs éminents, qui étaient Louis Kunkel et Hoffman, qui avaient trouvé, qui avaient, si vous voulez, cloné, comme on dit, le gène de la maladie de Duchenne et la protéine qui était pathologique, qui était le produit d'un gène anormal, et cette protéine, ils l'avaient appelée la dystrophine. Alors, voici très rapidement ce qu'était la dystrophine. Donc, c'est un gène très très grand. Alors, je vous dis tout de suite, ça c'est la membrane qui entoure un muscle, par exemple ici, ça c'est la membrane. Ça c'est ce qu'il y a à l'extérieur, je ne parle pas, mais à l'intérieur il y a cette dystrophine qui est donc un germe de très grande taille, c'est le plus grand germe connu dont il existe des délétions, peu importe, diverses modifications, et surtout dont on peut retrouver la présence ou l'absence grâce aux méthodes de Engel et de Brook, dont je vous parlais, de dystochimie, et vous voyez la différence entre un muscle normal où la dystrophine est marquée et où au contraire un muscle de maladie de Duchenne où la dystrophine est au contraire absente, et c'est visible à vue d'œil, et c'est très caractéristique. Alors évidemment, ce modèle des maladies de la dystrophine s'est étendu beaucoup, parce qu'à côté de la maladie de Duchenne, la maladie de Becker, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait des maladies du cœur et des muscles, des cœurs dilatés, des syndromes d'intolérance à l'effort, etc., etc. Et puis, des symptômes très particuliers chez des enfants qui n'avaient pas du tout, ils voyaient qu'ils arrivaient à se relever facilement après accroupissement, mais ils avaient de très 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 légères l'anomalie de la dystrophine, et puis avec des méthodes spéciales, des voir seulement des anticorps, si vous voulez, on montrait qu'il y avait de petites anomalies de la dystrophine, mais on pouvait affirmer qu'il ne s'agissait pas de maladie de Duchenne ou de Becker, et on pouvait rassurer les familles en disant que c'était beaucoup moins grave que ce que ça pouvait paraître au premier abord. Alors nous retrouvons donc Sir ou Lord Walton avec ses myopathies des ceintures donc, qu'il avait décrites. Et vous en voyez ici l'exemple, quelles sont les caractéristiques de ces myopathies. Et bien d'abord, une atrophie des muscles des épaules, une faiblesse des muscles des épaules, les bras qui sont diminués de volume, et puis aux jambes, les cuisses également sont de petit volume, et ces malades ont des grandes difficultés à se relever lorsqu'ils sont accroupis ou lorsqu'ils tombent dans la rue. Alors, là encore, eh bien, qu'est-ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent? On refaisait ces électrodiogrammes qui montraient que ça venait effectivement du muscle. On montrait des anomalies sur le prélèvement musculaire, sur la biopsie musculaire, avec de très grosses fibres là encore. Et puis ce qu'on appelait des fibres qui ressemblaient à des lobules, si vous voulez, des fibres lobulées qui étaient également très caractéristiques. Et sur le scanner des muscles également, des muscles conservés. Dont le contour était conservé, mais où le muscle avait totalement disparu et qui était caractéristique des atteintes alors purement musculaires par rapport aux atteintes du système nerveux. Alors là, révolution extraordinaire, parce qu'on est arrivé, grâce à une conjonction de méthodes, à montrer ce qu'on a dans un muscle, et je vais vous épargner ce qu'il y a, parce que c'est très 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 difficile à comprendre, mais il y a quand même dans le muscle une membrane, et dans cette membrane, il y a plusieurs composés, là, qui ont des noms bizarres, dysferline, caméoline, même une qui s'appelle télétonine, ou calpaline, et puis tout un système de réseaux de fibres qui entourent les fibres musculaires, que vous voyez ici, et aussi qui entourent le noyau de la cellule. Alors ça, cette image qui ne semble à rien, mais qui quand même a été un progrès considérable, parce qu'on est arrivé à déterminer toutes ces composantes du muscle, qui sont chacune à l'origine d'une maladie. Là, par exemple, le déficit en intégrine, la dystroglycanopathie, avec des noms difficiles, mais qui sont une réalité et qui débouchent sur des thérapeutiques très diverses. Alors, là encore, les choses se sont modifiées parce que des cas anciens particuliers qui avaient été décrits par le docteur Herb en Allemagne au 19e siècle et qui concernaient surtout des jeunes gens avec des atrophies des bras du thorax et surtout des atrophies des cuisses, de la face postérieure des cuisses. En fait, un spécialiste parisien Michel Farteau était allé à La Réunion pour trouver dans une région de La Réunion des cas tout à fait semblables, et ça avait permis de travailler en travaillant avec un Américain qui s'appelait Richard de déterminer justement que dans ces maladies, eh bien, il y avait toute une série de déficits avec ces fibres binaires, ces fibres lobulées qu'on voit. Sur le scanner, on voit la disparition des muscles qui étaient sur la face postérieure des jambes, et puis les méthodes qu'on appelle le Western Blot avaient montré qu'il s'agissait d'une forme très particulière où, vous voyez, il n'y a pas de calpaïne, la calpaïne 3 est déficitaire, et c'est une de ces formes nouvelles qui ont été individualisées et où le gène et puis les mutations diverses sont maintenant connus et aboutissent à beaucoup de choses. Alors, je vous ai montré également les sarcomycales, et bien il y en a deux qui sont très importantes. La première est la forme de l'adulte que l'on voit souvent en France, où vous retrouvez un tableau général qui ressemble un peu à un des patients que je vous ai montré, avec cette difficulté à écarter les membres supérieurs, également ces faiblesses dans les cuisses, et là alors c'est une étude moléculaire qui montre
la perte de ce qu'on appelle la DAF 50 et qui montre l'origine de la maladie.
Et puis, en même temps, en Tunisie, parce que ce sont des travaux qui ont également des caractères internationaux autour de la Méditerranée, Ben Amida, qui était un grand spécialiste de l'Institut de l'Arabe à Tunis, qui par ailleurs avait été ministre de la Santé, avait observé des cas très particuliers qui ressemblaient beaucoup à la maladie de Duchenne que je vous ai montré à l'instant. On voyait la même hypertrophie des mollets, mais d'une part, ils vivaient plus longtemps, d'autre part, il y avait des garçons et des filles dans la même famille, et ça n'était pas du tout en fait des maladies de Duchenne, et c'était un de ces déficits très particuliers en sarcoglycane qui sont fréquentes dans les pays méditerranéens. Alors, à ce moment-là, on a commencé à envisager de faire du traitement par un traitement des gènes, ce qu'on appelle la thérapie génique. Alors, on s'est servi de plusieurs moyens, et tout est en cours actuellement, il y a beaucoup d'études là-dessus, les cellules souches qui peuvent recréer des cellules musculaires, des transplantations de produits normaux du gène, d'acides oligonucléiques par des vecteurs, et en particulier des virus ou des substances non virales, également la correction de la mutation, si vous voulez, par le gène, en faisant un glissement de certaines parties du gène, ou encore de remplacer la protéine, par exemple, un profil déficient. Tout cela est plein d'avenir, mais ça n'est pas encore réalisé. Alors, ce petit monsieur barbu s'appelait Sir Hutchinson, il y avait longtemps, 19e siècle, et il avait observé des malades qui avaient un aspect très particulier, c'est-à-dire, vous voyez, cette femme qui n'arrive pas à ouvrir ses paupières, qui est obligée de rejeter sa tête en arrière, et dont les yeux sont immobiles. Alors, peu importe sur l'évolution, on avait pensé que c'était une myopathie, si vous voulez, une maladie des muscles qui était localisée aux paupières. Oui, 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 mais non aussi, parce qu'en fait, c'était quelque chose de très différent. Et là encore, ça a fait partie du renouveau. Ça concernait ce qu'on appelle les mitochondries. Alors, un Américain, Shai, avait montré qu'il y avait, sur ces microscopes électroniques, par exemple, des bâtonnets, vous voyez, des mitochondries géantes, etc., et toujours Engel avec Brooke, avait décrit des fibres, avait observé des fibres qui étaient caractéristiques du dépôt de mitochondries, qu'on appelait les ragged red fibres, c'est-à-dire des fibres déchiquetées, comme vous voyez, en haillons, et c'est ce qui caractérise de loin une maladie donc des mitochondries. Et pour en deux mots, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que les mitochondries? Eh bien, ce sont des petites molécules circulaires dont vous avez dans chaque cellule plusieurs dizaines d'exemplaires et qui servent à beaucoup de choses et en particulier à créer de l'énergie. Et c'est grâce aux mitochondries qu'on peut, entre autres, si vous voulez, marcher, courir avec divers complexes de la chaîne respiratoire. Et puis ce concept de maladie des mitochondries s'est étendu à beaucoup de choses, c'est-à-dire en particulier chez des patients qui avaient donc cette atteinte des muscles oculaires, cette difficulté à ouvrir les yeux, mais en plus des anomalies diverses, en particulier des atrophies optiques, des atteintes du cervelet, des atteintes du liquide céphalo-rachidien, et ça étendait le cercle, si vous voulez, de ces maladies. Et vous voyez, je ne vous impose pas la lecture de ce tableau, mais vous voyez qu'il peut y avoir des cardiomyopathies, qu'il peut y avoir d'autres maladies, des encéphalites, etc., etc., lors de mutations justement de ces gènes mitochondriales, mais aussi de certains gènes nucléaires, mais ça nous entraînerait trop loin. Alors, un des grands spécialistes des mitochondries a été Salvatore Di Moro, un Italien qui vit actuellement à New York, et qui a pu passer de nos mitochondries, si vous voulez, musculaires, ou nerveuse, a toute une série d'atteintes diverses, rénales, endocrines, etc., etc. Et vous voyez sur cette image que la médecine mitochondriale, selon son expression, eh bien, atteint tous les organes, l'intestin, les oreilles, le foie, etc., etc. Et ça, ça a été un grand progrès, de même que le Fukuhara, qui est un japonais, qui voyait observer des malades qui ont en plus des anomalies cérébrales qu'on voit sur le canet et des anomalies de la moelle épinière dues toujours à une mutation particulière. Alors pour rester et terminer avec ce cadre des myopathies oculaires, comme chez ce patient, eh bien Raymond Adams, qui a mouru récemment, mais qui est un grand neurologue de Boston, avait montré que c'était très différent des formes précédentes, parce que c'était des myopathies oculaires, mais également pharyngées. Et vous voyez que ce pauvre malade est incapable d'avaler, et on est obligé de lui passer une sonde nasale pour l'alimenter. Alors, l'origine de la maladie, là encore, on l'a récemment découverte, c'est un phénomène extraordinaire qui fait que certaines, dans les noyaux des cellules, eh bien, certaines anomalies pour dire des nations entraînent un très mauvais fonctionnement et font la sévérité de la maladie. Alors j'en arrive maintenant aux maladies pour lesquelles on n'est pas arrivé à beaucoup. Le docteur Landouzi de Paris et le professeur Degerine, où l'on voit ici avec sa superbe automobile, mais qui était quand même pas capable de passer la moitié de la journée dans son laboratoire, avait observé une maladie qu'il avait appelée la maladie, dans un nom un peu bizarre, facio. Ça veut dire que les malades avaient une atteinte de la face. Là encore, ils avaient des difficultés à ouvrir les yeux. Ils avaient un sourire un peu anormal dans les frères et les sœurs d'une maladie. Scapulo, parce qu'ils avaient une atteinte des omoplates, si vous voulez, un décollement des omoplates scapulaires, humérale, parce que c'était l'humérus, le bras, qui était atrophique, donc une atrophie très spéciale, fascio, scapulo-humérale, avec un avant-bras tout à fait normal, ce que les Américains appellent d'ailleurs l'avant-bras de Popeye. Alors, pour cette maladie, eh bien, on sait que ça se passe dans un chromosome, dans le chromosome 4, mais le gène n'est toujours pas identifié.
Mais il y a beaucoup plus sévère. Et la dernière maladie dont je vous parlerai,
c'est la maladie la plus grave du système nerveux, qui est ce qu'on appelle en France la maladie de Charcot, c'est-à-dire la maladie du nom de Charcot, qui était un grand neurologue pharisien du 19e siècle et qui avait décrit cette maladie, mais qu'aux États-Unis on appelle la maladie de Lou Gehrig, parce qu'ils sont, les Américains sont souvent imagés. Et alors Lou Gehrig était un fameux joueur de baseball, et puis avec les années on s'apercevait que ses performances diminuaient parce qu'il avait une main qui était moins forte et moins sévère, et depuis on appelle cette, et il était mort évidemment de cette maladie de Charcot. Et depuis, on appelle ça aux États-Unis la maladie de Lou Gehrig. Malheureusement, le diagnostic est terrible, avec des variations, bien entendu, parce que tout n'est pas absolu en médecine. Mais enfin, le diagnostic est un diagnostic terrible parce qu'on n'a pas de grandes possibilités. On a essayé beaucoup de choses. On a suivi, malgré tout, ces malades qui commencent par une faiblesse et une atrophie d'une main, puis atrophie des deux mains, puis des épaules, difficulté à écarter les bras, difficulté à avaler. Vous voyez cette langue qui est ravinée, qui est atrophique, qui est animée de petits secours. Ensuite, un fauteuil roulant, une immobilité totale, et puis une assistance respiratoire avec une survie qui quelquefois, heureusement, va à 10 ans de plus, mais en général, une mort respiratoire et des anomalies, c'est le seul examen qui soit positif. Des anomalies d'électromyogramme dans trois territoires qui montrent la diffusion de ce processus. Alors, quels sont les progrès ? Eh bien, il y a des progrès dans le diagnostic. Et en particulier, justement à Marseille, Pouget et Tarion ont utiliser des techniques très complexes, très sophistiquées, pour étudier surtout le temps, si vous voulez, de conduction des nerfs entre le cerveau et la moelle épinière,
et ce qui montre des anomalies tout à fait caractéristiques. Il y a également des pseudo-maladies de Charcot, des pseudo-sclérose latérale amyotrophique.
Par exemple, cette jeune femme que vous voyez a une atrophie ici un peu oblique de l'avant-bras, ou ce garçon qui quand même avait une très longue évolution et n'était pas mort au bout d'une quinzaine d'années, et que ce sont des maladies qui sont dues non plus à une atteinte de la moelle épinière, mais à un dépôt d'anticorps dans les fibres nerveuses, comme vous le voyez ici, ce qui bloque la conduction dans les fibres.
Puis il y a une autre maladie qui simule aussi la maladie de Charcot, c'est la maladie de Kennedy,
aussi le docteur Kennedy qui l'a décrite, et il y a la même chose, des atteintes de la langue, des atteintes de la face, une gynécomastie, c'est-à-dire une augmentation de volume des seins, parce que c'est une maladie de l'homme, qui est à l'origine de troubles endocriniens, maladie de l'homme donc, et qui est due là encore à une anomalie génique très particulière dans les récepteurs d'hormones, dans les récepteurs d'hormones mâles.
Alors il y a eu également de très grands progrès en génétique,
mais qui ne sont pas suffisants, parce qu'on a découvert des quantités de gènes passent, mais surtout dans 10% des cas de sclérose latérale amyotrophique, des formes familiales, avec dans 25% de ces 10%, si je peux le dire, des mutations du gène, en particulier de la superoxyde dismutase, qui est une protéine antioxydante, et ces formes sont souvent précoces et souvent catastrophiques, et selon l'expression de Brown, qui est un spécialiste des États-Unis, désastreusement fulminantes et qui évoluent rapidement vers la mort. Et là encore, les essais thérapeutiques, dont vous voyez diverses possibilités, se sont limitées à une aide à domicile, suivie par de nombreuses IFL, comment annoncer le diagnostic, et effectivement à l'officialisation de centres spécialisés, en particulier à Marseille-Pouget et à Nice-Claude Desnuel.
Alors, pour en revenir à Marseille, eh bien,
à Marseille, en 1982, donc, l'activité d'Ontario était en pleine action, si vous voulez, on avait cette fois alors été choisi, après d'autres pays que vous voyez mentionnés ici, pour organiser le grand congrès mondial qui avait lieu tous les 4 ans et qui, donc, se déroulait à Marseille. Et vous voyez, c'est écrit dans la presse. 1000 chercheurs réunis à la faculté de médecine, où on reconnaît là, plusieurs personnes, le docteur Milorat en particulier, ou Walton, enfin, diverses personnes. Et vous voyez que les séances étaient très suivies, et il y avait des communications tout à fait nouvelles, révolutionnaires, et ça avait été vraiment la consécration de Marseille, et il en était sorti d'ailleurs un ouvrage aux États-Unis qui réunissait toutes les conférences d'actualité et toutes les nouveautés qui avaient été exprimées lors de cette réunion très importante.
Alors qu'est-ce que là encore nous devons nous réjouir de tous ceux qui nous ont aidés à cette époque.
Je ne vais pas vous donner les noms parce que ça ne vous dira rien, mais enfin les Australiens, les Américains, les Canadiens, les Indiens, le docteur Milorat que je vous avais montré au début, qui était le pionnier, mais qui maintenant est mort malheureusement, de Covid. Et puis à cette occasion, on avait remis des diplômes de docteur honoris causa, docteur Ressoum, Huxley, Adams, etc., etc.
Ça avait été une grande, très grande cérémonie internationale avec également l'Américain, la Polonaise, Madame Osmanova, Ansat, Engel, Peter Dick, un Australien. Et cela avait vraiment stimulé tous les gens qui travaillaient avec nous, et à la suite de ça, on ne s'était pas arrêté.
Et au contraire, on avait travaillé, alors vous voyez les plus jeunes, c'est-à-dire il y a Jean-Luc Gasteau, Didier Cros qui actuellement est à Boston, Olivier Blin, Jean-Philippe Azulay, Pouget et le professeur Pélissier. Et alors toutes les fois, il paraissait toujours un ouvrage qui faisait référence sur diverses maladies, peu importe les maladies, mais enfin ça concernait toujours le système nerveux. Et là, cette fameuse maladie de Charcot, qui avait été publiée aux États-Unis. Donc, le travail à Marseille, eh bien, ça marchait. Et alors, avant de terminer, je dois quand même rendre hommage à une série de personnes, et en particulier au maire de Marseille. Parce que les maires de Marseille, avec les années, avaient compris l'importance de ces manifestations, dont on ne parlait pas beaucoup en définitive, mais vous voyez que là, c'était reçu à la mairie par Gaston Defer, puis par Robert Vigouroux, puis par Jean-Claude Gaudin, et président du conseil général de l'époque, et dans tous les cas, ils avaient l'amabilité de recevoir les étrangers, et de considérer que c'était quelque chose d'important à Marseille, et je crois qu'ils avaient raison, et ils en étaient convaincus. Alors, en terminant donc, eh bien, que va être le futur? Eh bien, le futur sera certainement très brillant, et pour ne pas utiliser l'expression de Marseille, comment dit-on, en bovone, ou je ne sais pas quoi, Marseille est manifestement en pointe dans le cas de cette maladie. Le professeur Pouget qui m'a succédé, eh bien, le service est devenu, comme on a passé assez nouveau, est devenu le centre de référence des maladies neuromusculaires. Et par exemple, il suit 330 maladies de Charcot, je cherche un chiffre considérable en ce moment. Il traite également cette consortium internationale sur le traitement de certaines atteintes des nerfs périphériques avec Olivier Blin. Une évaluation également de. Du trajet du cerveau dont je parlais jusqu'à la moelle épinière avec le professeur Cozot, et puis avec Nicolas Lévy, la génétique de certaines de ces formes myofibrillées ou dysfonctionnelles. De même, à l'hôpital d'enfants, le professeur Brigitte Fabrol a beaucoup d'activités, elle s'occupe des myopathies du petit enfant, en particulier de modifications de la résonance magnétique. Elle traite les maladies de Duchenne avec des essais de cortisone, d'autres maladies dysimmunes avec des produits particuliers, et elle a le grand projet de créer un centre de rééducation des handicaps autour, ou du moins à l'hôpital Salvatore. Et puis, il y en a d'autres, évidemment. Alors, Denuel, qui est actuellement à Nice, eh bien, lui aussi, il a un centre pour la maladie de Charcot. Il a un centre pour la maladie de Charcot et il a commencé à transférer des cellules souches dans le cadre de la maladie de l'androgyne d'Evrine, dont je vous ai montré un exemple. Et Jean-François Pélissier, aidé de Daniel, Dominique, pardon, Figaret-Lamanger, continue à faire des développements dans l'étude des muscles et du système nerveux. Quant à Azulay, lui, alors, il a développé ce qu'on appelle la pathologie du mouvement, c'est-à-dire, ça va jusqu'à Red Parkinson, la posture, si vous voulez, la marche, la locomotion. Et là encore, il y a un projet de l'Institut des neurosciences de neurobiologie de la motivation. Et puis, je suis très heureux également de voir que les journées neuromusculaires qui avaient commencé en 1968, ont continué et vont se continuer. Alors, en conclusion, je voudrais simplement dire qu'il faut considérer toutes ces personnes qui ont consacré leur vie, qu'ils soient cliniciens ou fondamentalistes, comme on dit, c'est-à-dire ce travail auprès des malades ou dans les laboratoires, qui ont consacré leur vie à l'étude de ces maladies, et à ces progrès qui ont su être beaucoup plus que ce qu'on pense habituellement, c'est-à-dire des fonctionnaires qui travaillent plus ou moins comme ils peuvent, mais ce sont des gens qui sont animés par une passion qui fait que, dans la science, je crois qu'on fait vraiment des choses actives, des choses positives comme ici, que si on est passionné par son travail. Et c'est pour ça que tous ces chercheurs, je crois qu'il faut les aider et qu'ils ne feront que nous faire progresser dans le diagnostic et dans les thérapeutiques de ces maladies souvent très graves.
Marseille dans le mouvement, vous voyez. Bien, il y a certainement des questions pour le professeur Thératrice sur ces maladies qui sont souvent terribles, qui sont aussi complexes. Je crois qu'il faut la grande expertise du professeur Thératrice pour dominer la question. Oui.
Moi, je souffre depuis 3-4 ans, peut-être un peu plus.
Micro.
Des jambes.
Appuyez sur le micro.
Ah, oui, j'ai le bouton.
Je vous ai vraiment quelque chose.